Les Bambex. Extrait des souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, première série, chapitre 16. Édité en 1879. Non loin d'Avignon, sur la rive droite du Rhône, en face de l'embouchure de la Durance, se trouve l'un de mes points favoris pour les observations que je vais rapporter. C'est le bois des Issards. Que l'on ne se méprenne pas sur la valeur de ce mot, le bois éveillant en général dans l'esprit l'idée d'un sol matelassé d'un frais tapis de mousse et l'idée du couvert d'une haute futaie d'où descend un demi-jour tamisé par le feuillage. Les plaines brûlées, où grince la cigale sur le pâle olivier, ne connaissent pas ces délicieuses retraites remplies d'ombre et de fraîcheur. Le bois des Issards est un taillis de chênes verts, à hauteur d'homme, clairsemé par maigres touffes qui tempèrent à peine à leurs pieds les ardeurs du soleil. Lorsque, par les jours caniculaires de juillet et d'août, je m'établissais des après-midi en quelques points du taillis favorables à mes observations, j'avais pour refuge un grand parapluie qui, plus tard, vint, de la manière la plus inattendue, me prêter un concours bien précieux sous un autre rapport, ainsi que mon récit l'établira en temps opportun. Si j'avais négligé de me munir de ce meuble, embarrassant pour une longue course, la seule ressource contre une insolation était de me coucher tout au long derrière quelques buttes de sable, et lorsque les artères étaient par trop en ébullition dans les tempes, le moyen suprême consistait à m'abriter la tête à l'entrée de quelques terriers de lapins. Telles sont les sources de fraîcheur au bois des Issards. Le sol non occupé par les bouquets de végétation ligneuse est à peu près nu et se compose d'un sable fin, aride et très mobile, que le vent amoncelle en petites dunes partout où les souches et les racines des chênes verts forment obstacle à sa dissémination. La pente de ces dunes est en général bien unie, à cause de l'extrême mobilité des matériaux, qui s'éboulent dans la moindre dépression et rétablissent de même la régularité des surfaces. Il suffit de plonger le doigt dans le sable et de le retirer pour ramener aussitôt un éboulis qui comble la cavité et rétablit les choses en l'état primitif, sans laisser de traces visibles. Mais à une certaine profondeur, variable suivant l'époque plus ou moins reculée des dernières pluies, le sable conserve un reste d'humidité qui le maintient en place et lui donne la consistance nécessaire pour être creusé de légères excavations sans affaissement des parois et de la voûte. Un soleil ardent, un ciel magnifiquement bleu, des pentes qui cèdent sans la moindre difficulté aux coups de râteau de l'hyménoptère, du gibier en abondance pour la nourriture des larves, un emplacement paisible que ne trouble presque jamais le pied du passant, tout est réuni en ce lieu de délices des Bambex. Assistons à l'œuvre de l'industrieux insecte. Si le lecteur veut prendre place avec moi sous le parapluie, ou profiter de mon terrier de lapin, voici le spectacle auquel il est convié vers la fin de juillet. Un Bambex, Bambex restrata, brusquement survient, je ne sais d'où, et s'abat sans recherche préalable, sans hésitation aucune, en un point qui, pour mes regards, ne diffère en rien du reste de la surface sablonneuse. Avec ses tarses antérieures qui, armés de robustes rangées de cils, rappellent à la fois le balai, la brosse et le râteau, il travaille à déblayer sa demeure souterraine. L'insecte se tient sur les quatre pattes postérieures, les deux de derrière un peu écartées, celles de devant, à coups alternatifs, gratte et balaie le sable mobile. La précision et la rapidité de la manœuvre ne seraient pas plus grandes si quelques ressorts animaient le moulinet des tarses. Le sable, lancé en arrière sous le ventre, franchit l'arcade des jambes postérieures, jaillit en un filet continu semblable à celui d'un liquide, décrit sa parabole et va retomber à 2 décimètres plus loin. Ce jet poudreux, toujours également nourri, des 5 et des 10 minutes durant, démontre assez l'étourdissante rapidité des outils en action. Je ne pourrais citer un second exemple de pareille prestesse, qui n'enlève rien néanmoins à la grâce dégagée, à la liberté d'évolution de l'insecte, avançant et reculant d'un côté puis de l'autre, sans discontinuer la parabole de son jet. Le terrain creusé est des plus mouvants. À mesure que l'hyménoptère creuse, le sable voisin s'éboule et comble la cavité. Dans l'éboulis sont compris de menus débris de bois, des queues de feuilles pourries, des grains de gravier plus volumineux que les autres. Le Bambex les enlève avec les mandibules et les porte plus loin, à reculons, puis il revient balayer, mais toujours peu profondément, sans tentative pour s'enfoncer en terre. Quel est son but en ce travail tout à la surface? Il serait impossible de le dire d'après ce premier coup d'œil, mais ayant passé bien des journées avec mes chers hyménoptères et groupant en un faisceau les données éparses de mes observations, je crois entrevoir le motif des manœuvres actuelles. Le nid de l'hyménoptère est là certainement, sous terre, à quelques pouces de profondeur, dans une logette creusée au sein du sable frais, et fixe se trouve un œuf, peut-être une larve que la mer approvisionne au jour le jour de mouches invariables victuailles des bambex dans leur premier état. La mer, à tout moment, doit pouvoir pénétrer dans ce nid, portant au vol, entre les pattes, le gibier quotidien destiné aux nourrissons, de même que l'oiseau de proie pénètre dans son aire ayant dans les serres la venaison destinée aux petits. Mais si l'oiseau rentre chez lui, sur quelque corniche de rocher inaccessible, sans autre difficulté que celle du poids et de l'embarras du gibier capturé, le bambex ne peut le faire qu'en se livrant chaque fois à la rude besogne de mineur et en ouvrant à nouveau une galerie qui s'obstrue, se clôt d'elle-même par le fait seul de l'éboulement du sable à mesure que l'insecte progresse. Dans cette demeure souterraine, la seule pièce à parois immobile, c'est la cellule spacieuse qu'habite la larve, au milieu des débris de son festin de 15 jours, le vestibule étroit, où la mer s'engage pour pénétrer dans l'appartement du fond ou pour sortir et aller en chasse, s'écroule chaque fois, du moins dans la partie antérieure creusée au milieu d'un sable très sec, que des entrées et des sorties répétées rendent plus mobile encore. Chaque fois qu'il entre et chaque fois qu'il sort, l'hyménoptère doit par conséquent se frayer un passage au sein de l'éboulis. La sortie ne présente pas de difficulté, le sable eut-il la consistance qu'il pouvait avoir au début, lorsqu'il a été remué pour la première fois, l'insecte est libre dans ses mouvements, il est en sécurité sous l'abri qui le couvre, il peut prendre son temps et faire agir sans précipitation tarses et mandibules. C'est une toute autre affaire pour la rentrée. Le bambex a l'embarras de sa proie, que les pattes retiennent serrées contre le ventre, le mineur est ainsi privé du libre usage de ses outils. Circonstance bien plus grave, d'effrontés parasites, vrais bandits en embuscade, sont tapis ici et là aux environs du terrier, guettant la difficultueuse rentrée de la mer pour déposer à la hâte leur œuf sur la pièce de gibier, à l'instant même où elle va disparaître dans la galerie. S'ils réussissent, le nourrisson de l'hyménoptère, le fils de la maison périra affamé par de goulus commensaux. Le bambex paraît au courant de ces périls, aussi des dispositions sont-elles prises pour que la rentrée s'effectue promptement, sans obstacle sérieux, enfin pour que le sable obstruant la porte cède à la seule poussée de la tête aidée d'un rapide coup de balai des tarses antérieures. Dans ce but, les matériaux aux abords du logis subissent une sorte de tamisage. En des moments de loisir, lorsque le soleil s'y prête et que la larve pourvue de vivres ne réclame pas ses soins, la mère passe au râteau le devant de sa porte, elle écarte les menus débris de bois, les graviers trop forts, les feuilles qui pourraient se mettre en travers et barrer le passage au moment périlleux de la rentrée. C'est à pareil travail de tamisage que se livre, avec tant de zèle, le bambex que nous venons de voir à l'œuvre. Pour rendre l'accès du logis plus facile, les matériaux du vestibule sont fouillés, épluchés minutieusement et purgés de toute pièce encombrante. Qui nous dira même si, par sa vive prestesse, sa joyeuse activité, l'insecte n'exprime pas à sa manière la satisfaction maternelle, le bonheur de veiller sur le toit de la cellule qui a reçu le précieux dépôt de l'œuf. Puisque l'hyménoptère se borne à des soins de ménage extérieur, sans chercher à pénétrer dans le sable, tout est en ordre au logis, et rien ne presse. En vain nous attendrions, l'insecte, pour le moment, ne nous en apprendrait pas davantage. Examinons alors la demeure souterraine. En raclant légèrement la dune avec la lame d'un couteau, au point même où le bambex se tenait de préférence, on ne tarde pas à découvrir le vestibule d'entrée, qui, tout obstrué qu'il est dans une partie de sa longueur, n'est pas moins reconnaissable à l'aspect particulier des matériaux remués. Ce couloir, du calibre du doigt, rectiligne ou sinueux, plus long ou plus court, suivant la nature et les accidents du terrain, mesure de 2 à 3 décimètres. Il conduit à une chambre unique, creusée dans le sable frais, dont les parois ne sont crépies d'aucune espèce de mortier qui puisse prévenir les éboulements et donner du poli aux surfaces raboteuses. Pourvu que la voûte tienne bon pendant l'éducation de sa larve, cela suffit, peu importe les effondrements futurs lorsque la larve sera renfermée dans le robuste cocon, espèce de coffre-fort que nous lui verrons construire. Le travail de la cellule est donc des plus rustiques, tout se réduit à une grossière excavation, sans forme bien déterminée, à plafond surbaissé et d'une capacité qui donnerait place à deux ou trois noix. Dans cette retraite gît une pièce de gibier, une seule, toute petite et bien insuffisante pour le vorace nourrisson auquel elle est destinée. C'est une mouche d'un vert doré, une Lucilia caesar, hôte des chairs corrompues. Le diptère servi en pâture est complètement immobile. Est-il tout à fait mort? N'est-il que paralysé? Cette question s'élucidera plus tard. Pour le moment, constatons sur le flanc du gibier un œuf cylindrique, blanc, très légèrement courbe et d'une paire de millimètres de longueur. C'est l'œuf du bambex. Comme nous l'avions prévu d'après la conduite de la mère, rien ne presse en effet au logis, l'œuf est pondu et approvisionné d'une première ration proportionnée aux besoins de la débile larve qui doit éclore dans les 24 heures. De quelque temps, le bambex ne devait pas rentrer dans le souterrain, se bornant à faire bonne garde aux environs, ou peut-être creusant d'autres terriers pour y continuer sa ponte, œuf par œuf, chacun dans une cellule à part. Cette particularité de l'approvisionnement initial avec une pièce de gibier unique et de petite taille n'est pas spéciale au bambex rostré. Toutes les autres espèces se comportent de même. Si l'on ouvre une loge de bambex quelconque, peu après la ponte, on y trouve toujours l'œuf collé sur le flanc d'un diptère, qui forme à lui seul l'approvisionnement. En outre, cette ration du début est invariablement de petite taille, comme si la mère recherchait des bouchées plus tendres pour le faible nourrisson. Un autre motif d'ailleurs, celui des vivres frais, pourrait bien la guider dans ce choix, ainsi que nous l'examinerons plus tard. Ce premier service de table, toujours peu copieux, varie beaucoup de nature suivant la fréquence de telle ou telle autre espèce de gibier aux environs du nid. C'est tantôt une Lucilia caesar, tantôt un Stomoxys ou quelque petit éristal, tantôt un délicat bombylien habillé de velours noir, mais la pièce la plus fréquente est une Ferrophorie, à ventre fluet. Ce fait général, sans exception aucune, de l'approvisionnement de l'œuf avec un diptère unique, ration infiniment trop maigre pour une larve douée d'un vorace appétit, nous met déjà sur la voie de traits de mœurs le plus remarquable chez les bambex. Les hyménoptères dont les larves vivent de proie entassent dans chaque cellule le nombre de victimes nécessaires à l'éducation complète, ils déposent l'œuf sur l'une des pièces et clôturent la loge où il ne rentre plus. Désormais la larve éclot et se développe solitaire, ayant devant elle, du premier coup, tout le monceau de vivres qu'elle doit consommer. Les bambex font exception à cette loi. La cellule est d'abord approvisionnée d'une pièce de venaison, unique toujours, de faible volume, sur laquelle l'œuf est pondu. Cela fait, la mère quitte le terrier qui se bouche de lui-même, d'ailleurs, avant de se retirer, l'insecte a soin de ratisser le dehors pour égaliser la surface et dissimuler l'entrée à tout regard autre que le sien. Deux ou trois jours se passent, l'œuf éclot et la petite larve consomme la ration de choix qui lui a été servie. La mère cependant se tient dans le voisinage, on la voit tantôt lécher pour nourriture les exudations sucrées des têtes du panicot, tantôt se poser avec délice sur le sable brûlant, d'où elle surveille sans doute l'extérieur du domicile. Par moments, elle tamise le sable de l'entrée, puis elle s'envole et disparaît, occupée peut-être ailleurs à creuser d'autres cellules, qu'elle approvisionne de la même manière. Mais si prolongée que soit son absence, elle n'oublie pas la jeune larve si parcimonieusement servie, son instinct de mère lui apprend l'heure où le vermisseau a fini ses vivres, et réclame nouvelle pâture. Elle revient donc au nid, dont elle s'est admirablement retrouvée l'invisible entrée, elle pénètre dans le souterrain, cette fois chargée d'un gibier plus volumineux. La proie déposée, elle quitte de nouveau le domicile et attend au dehors le moment d'un troisième service. Ce moment ne tarde pas à venir, car la larve consomme les victuailles avec un dévorant appétit. Nouvelle arrivée de la mère avec nouvelle provision. Pendant 2 semaines à peu près que dure l'éducation de la larve, les repas se succèdent ainsi, un à un, à mesure qu'il en ait besoin, et d'autant plus rapprochés que le nourrisson se fait plus fort. Sur la fin de la quinzaine, il faut toute l'activité de la mère pour suffire à l'appétit du goulu, qui traîne lourdement son ventre au milieu des dépouilles dédaignées, pattes, anneaux cornés de l'abdomen. À tout moment, on la voit rentrer avec une récente capture, à tout moment, ressortir pour la chasse. Bref, le Bambec s'élève sa famille au jour le jour, sans provisions amassées d'avance, comme le fait l'oiseau apportant la béquille à ses petits, encore au nid. Des preuves multipliées qui mettent en évidence ce genre d'éducation, bien singulier pour un hyménoptère alimentant sa famille de proies, j'ai déjà cité la présence de l'œuf dans une cellule où ne se trouve, pour provision, qu'un petit diptère, toujours un seul, jamais plus. Une autre preuve est la suivante, qui n'exige pas un moment spécial pour être constatée. Fouillons le terrier d'un hyménoptère qui fait les provisions de ses larves à l'avance. Si nous choisissons le moment où l'insecte pénètre chez lui avec une proie, nous trouverons dans la cellule un certain nombre de victimes, approvisionnement commencé, jamais alors de larves, pas même d'œufs, car celui-ci n'est pondu que lorsque les vivres sont au grand complet. La ponte faite, la cellule est close, et la mère n'y revient plus. C'est donc uniquement dans des terriers où les visites de la mère ne sont plus nécessaires qu'il est possible de trouver des larves à côté des vivres plus ou moins entassés. Visitons, au contraire, le domicile d'un bambex, au moment où celui-ci entre avec le produit de sa chasse. Nous sommes certains de trouver dans la cellule une larve, plus grosse ou plus petite, au milieu de débris de vivres déjà consommés. La ration que la mère apporte maintenant est donc destinée à la continuation d'un repas qui dure déjà depuis plusieurs jours et doit continuer encore avec le produit des chasses futures. S'il nous est donné de faire cette fouille sur la fin de l'éducation, avantage que j'ai eu aussi souvent que je l'ai désiré, nous trouverons, sur un copieux monceau de débris, une grosse larve ventrue, à laquelle la mère apporte encore des victuailles fraîches. Le bambex ne cesse l'approvisionnement et ne quitte pour toujours la cellule que lorsque la larve, distendue par une bouillie alimentaire d'aspect vineux, refuse le manger et se couche, toute rebondie, sur le hachis d'aile et de pattes du gibier dévoré. Chaque fois qu'elle pénètre dans le terrier, au retour de la chasse, la mère n'apporte qu'un seul diptère. S'il était possible, au moyen des débris contenus dans une cellule où l'éducation est finie, de compter les victimes servies à la larve, on saurait combien de fois au moins l'hyménoptère a visité son terrier depuis la ponte de l'œuf. Malheureusement, ces reliefs de table, mâchés et remâchés en des moments de disette, sont pour la plupart méconnaissables. Mais si l'on ouvre une cellule dont le nourrisson soit moins avancé, les vivres se prêtent à l'examen, quelques pièces encore entières ou presque entières, les autres, plus nombreuses, se trouvant à l'état de tronçon assez bien conservé pour être déterminé. Tout incomplet qu'il est, le dénombrement obtenu dans ces conditions frappe de surprise, en montrant quelle activité doit déployer l'hyménoptère pour suffire au service d'une pareille table. Voici la carte de l'un des menus observés. En fin septembre, autour de la larve du bambex de Jules, Bambex julii. Voir note 1, ci après. Parvenue à peu près au tiers de la taille qu'elle doit définitivement acquérir, je trouve le gibier dont suit le détail. 6 Echinomia rubescens, 2 entiers, et 4 dépecés, 4 Syrphus coralloés, 2 au complet, 2 autres en pièces, 3 Gonia atra, tous les 3 intacts, et dont un apporté à l'instant même par la mère, ce qui m'a fait découvrir le terrier, 2 Polonia ruficolis, l'un intact, l'autre entamé, le Bombylius réduit en marmelade, 2 Echinomia intermedia, à l'état de débris, enfin 2 Polonia floralis, encore à l'état de débris. Total, 20 pièces. Voilà certes un menu aussi abondant que varié, mais comme la larve n'a guère que le tiers de la grosseur finale, la carte complète du festin pourrait bien s'élever à une soixantaine de pièces. La vérification de ce somptueux chiffre peut s'obtenir sans difficulté aucune, je vais remplacer moi-même le bambex dans ses soins maternels et fournir à la larve de vivre jusqu'à satiété. Je déménage la cellule dans une petite boîte de carton, que je meuble d'une couche de sable. Sur ce lit est déposée la larve, avec tous les égards dus à son délicat épiderme. Autour d'elle, sans oublier un débris, je range les provisions de bouche dont elle était pourvue. Enfin, je reviens chez moi, la boîte toujours à la main pour éviter des secousses qui pourraient renverser le logis en dessus-dessous et mettre en péril mon élève pendant un trajet de plusieurs kilomètres. Quelqu'un qui m'eût vu, sur la route poudreuse de Nîmes, exténué de fatigue et portant à la main, avec un soin religieux, le fruit unique de ma pénible course, un vilain ver faisant ventre d'un monceau de mouches, eût certes bien souri de ma naïveté. Le voyage s'accomplit sans encombre. À mon arrivée, la larve continuait paisiblement de manger ses diptères, comme si de rien n'était. Le troisième jour de la captivité, les vivres pris dans le terrier même étaient achevés. Le ver, de sa bouche pointue, fouillait dans le tas de débris sans rien trouver à sa convenance. Les parcelles saisies, trop arides, lambeaux cornés et dépourvues de suc, étaient rejetées avec dégoût. Le moment est venu pour moi de continuer le service alimentaire. Les premiers diptères à ma portée, tel sera le régime de ma prisonnière. Je les tue en les pressant entre les doigts, mais sans les écraser. La première ration se compose de 3 éristalies tenax et de 1 sarcophaga. En 24 heures, tout était dévoré. Le lendemain, je sers 2 éristales et 4 mouches domestiques. Il y en eut assez pour la journée, mais pas de reste. Je continuai de la sorte pendant 8 jours, donnant chaque matin au ver ration plus copieuse. Le neuvième, la larve refuse toute nourriture et se met à filer son cocon. Le relevé de ces 8 jours de bombance se chiffre par le nombre de 62 pièces, composées principalement d'éristales et de mouches domestiques, ce qui, joint aux 20 pièces trouvées entières ou en débris dans la cellule, forme un total de 82. Il est possible que je n'aie pas élevé ma larve avec la sobriété hygiénique et la sage épargne qu'eût observée la mère. Il y a eu peut-être du gaspillage dans des vivres servis quotidiennement en une seule fois et abandonnés à l'entière discrétion du ver. En quelques circonstances, j'ai cru reconnaître que les choses ne se passent pas ainsi dans la cellule maternelle, car mes notes relatent des faits dans le genre du suivant. Dans les sables des alluvions de la Durance, je mets à découvert un terrier où l'hyménoptère, Bombex oculata, vient de pénétrer avec un sarcophaga agricola. Au fond du clapier, je trouve une larve, de nombreux débris, et quelques diptères complets, savoir, 4 Sphoeroforia scripta, un Onosia viarum, et 2 sarcophaga agricola dont fait partie celui que le Bombex vient d'apporter sous mes yeux. Or, il est à remarquer qu'une moitié de ce gibier, les sphérofories, est tout au fond de la cellule, sous la dent même de la larve, tandis que l'autre moitié est encore dans la galerie, sur le seuil de la cellule, et par conséquent hors des atteintes du ver, incapable de se déplacer. Il me paraît donc que la mère dépose provisoirement ses captures, lorsque la chasse abonde, sur le seuil de la cellule, et forme un magasin de réserve où elle puise à mesure qu'il en ait besoin, surtout en des jours pluvieux pendant lesquels tout travail chôme. Ainsi pratiquée avec économie, la distribution des vivres préviendrait des gaspillages que je n'ai pas su éviter avec ma larve, trop somptueusement traitée peut-être. J'abaisse donc le chiffre obtenu et je le réduis à une 60aine de pièces, de taille médiocre, comprise entre celle de la mouche domestique et de l'Eristalie tenax. Tel serait à peu près le nombre de diptères servis par la mère à la larve lorsque la proie est de médiocre volume, ce qui a lieu pour tous les bombex de ma région, excepté le bombex rostré, bombex rostrata, et le bombex bidenté, bombex bidentata, qui affectionne particulièrement les taons. Pour ceci, le chiffre des victimes serait d'une à deux douzaines, suivant la grosseur du diptère qui varie beaucoup d'une espèce à l'autre du genre tant. Pour ne plus revenir sur la nature des vivres, je donne ici l'énumération des diptères observés dans les terriers des 6 espèces de bombex qui font le sujet de ce travail. Première espèce. Bombex olivacea rossi. J'ai vu cette espèce à Cavaillon, une seule fois, avec des Lucilia caesar pour approvisionnement. Les 5 espèces suivantes sont communes aux environs d'Avignon. Deuxième espèce. Bombex oculata jur. Le diptère sur lequel l'œuf est pondu consiste le plus souvent en une sphéroforie, Sphoeroforia scripta surtout, parfois en un Geron gibbosus. Les provisions ultérieures comprennent Stomoxy calcitrans, Pollenia ruficolis, Pollenia rudis, Pipizani gripes, Syrphus coralloe, Onesia viarum, Califora vomitoria, Echinomia intermedia, Sarcophaga agricola, Musca domestica. L'approvisionnement habituel consiste en Stomoxys calcitrans, dont j'ai bien des fois trouvé de 5 à 6 individus dans un seul terrier. Troisième espèce. Bombex tarsata lat. Celui-ci dépose également son œuf sur le Sphoeroforia tarsata. Il chasse ensuite Anthrax flava, Bombylius nitidulus, Eristalis oenus, Eristalis sepulcralis, Merodon spinipes, Syrphus corollae, Helophilus trivitatus, Zodion notatum. Son gibier de prédilection consiste en Bombyl et en Anthrax. Quatrième espèce. Bombex julii. L'œuf est déposé soit sur un Sphoeroforia, soit sur un Polonia floralis. Les vivres sont un mélange de Syrphus corollae, Echinomia rubescens, Echinomia intermedia, Gonia atra, Pollenia floralis, Pollenia ruficolis, Clitia pellucens, Lucilia caesar, Dexia rustica, Bombylius. Cinquième espèce. Bombex rostrata fabre. Celui-ci est par excellence un consommateur de thaon. Il pond son œuf sur un Syrphus corollae, sur un Lucilia caesar, puis il sert à sa larve exclusivement du gros gibier appartenant aux diverses espèces du genre Tabanus. Sixième espèce. Bombex bidentata van der Linden. Encore un passionné chasseur de thaon. Je ne lui ai pas reconnu d'autres gibiers, et j'ignore sur quel autre diptère il pond son œuf. Cette variété de provisions démontre que les bombex n'ont pas de goûts exclusifs, et s'attaquent indifféremment à toutes les espèces de diptères que leur offrent les hasards de la chasse. Il paraît y avoir néanmoins quelques prédilections. Ainsi une espèce consomme surtout des bombyles, une seconde des stomoxys, une troisième et une quatrième des thaons. Fin de chapitre. Source, Souvenirs entomologiques, Jean-Henri Fabre, première série, chapitre 16. Édité en 1879.